Vous écoutez RTL.
Il est 15h03 et vous êtes sur RTL. On est fait pour s'entendre avec la gentille Flavie Flamand.
Ah, merci.
Ça vous va bien, non?
Je vous remercie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Faut-il être quoi, méchant pour réussir ou gentil?
Professionnellement, peut-on réussir en étant gentil?
Des fois, on dit trop gentil.
Justement, on va en parler aujourd'hui avec nos invités, nos auditeurs. Merci, on vous retrouve
bonne
à
émission.
16h pour un prochain point sur l'actu. En tout cas, dans l'équipe dont on est fait pour s'entendre, sans aucun doute, on peut réussir en étant gentil. Mais est-ce vraiment le cas partout?
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue en ce lundi sur RTL et dans On est fait pour s'entendre. Peut-être rentrez-vous tout juste de vacances. Aussi, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un bon retour. Et si vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, je ne peux que vous conseiller d'écouter nos émissions en replay sur RTL.fr car elles valent vraiment le détour. La semaine qui nous attend est des plus réjouissantes et je suis certaine que vous aurez encore et encore envie de partager avec nous en appelant le 3210 ou en vous rendant sur les réseaux sociaux. Demain, nous parlerons du coup de foudre et vendredi, nous nous demanderons si les émoticônes constituent à eux seuls un nouveau langage. Mais avant de s'envoyer des smileys et autres baisers en forme de cœur, place aux questions de ce jour. D'un côté, nous avons le monde du travail, avec une image de dureté, de compétition, de rendement et de stress. Et puis de l'autre, un trait de caractère, la gentillesse, avec une image de défaut, de naïveté et de faiblesse. Alors ces deux univers sont-ils réellement incompatibles? Au bureau, l'homme est-il forcément un loup pour l'homme? La bienveillance est-elle un désavantage dans le monde de l'entreprise? Peut-on réussir sa vie professionnelle en étant gentil? C'est en fait des questions que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. Emmanuel Jafflin, bonjour, bienvenue
bonjour,
dans
Flavie.
L'effet pour s'entendre, tout bronzé. En pleine forme. Bientôt, vous allez reprendre le chemin de l'école pour donner des notes.
Le chemin de croix, comme vous, la randonnée.
Et oui, alors c'est une forme de randonnée, mais très agréable en tout cas. Vous êtes philosophe et vous êtes surtout auteur de cet ouvrage qu'on peut voir sur RTL.fr, Éloge de la gentillesse en entreprise, chez First. Et puis à vos côtés, un petit jeune. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Quel joli prénom. Antoine Petit.
Oui,
ça n'a pas dû être évident, parce qu'en même temps, vous n'êtes pas si petit que ça.
Non, ça va, je me suis bien débrouillé
petit
pour grandir
est devenu grand.
Et m'épanouir.
Vous êtes un ancien stagiaire, mais en fait, aujourd'hui, vous êtes également directeur de clientèle dans une agence de publicité internationale. Et puis, vous êtes auteur de cet ouvrage « Je déchire en stage, le guide du stagios pour survivre en entreprise ». Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un ouvrage paru chez Librio, selon vous, Antoine Petit, pour pouvoir coacher ces jeunes qui cherchent à réussir?
En tout cas, ça nous semblait nécessaire quand on voit les bourdes maladresses qui peuvent arriver dans le monde de l'entreprise, quand on débarque, qu'on n'est pas armé, qu'on n'a pas les codes. Il nous a semblé aussi sympathique qu'important d'aider, d'armer ces stagiaires à comprendre ce monde qui n'est pas toujours très simple.
Emmanuel Jafflin, vous avez déjà noté ce langage presque de guerre, en fait, hein, armer les stagiaires.
J'allais rebondir dessus. L'armée de gentillesse, ce serait le plus efficace, et surtout armer la hiérarchie en leur disant que c'est en travaillant au corps les stagiaires, en les faisant monter, plutôt qu'en les laissant en bas de l'étage, qu'ils vont s'épanouir et qu'ils vont être utiles, efficaces, productifs, et créer une bonne atmosphère dans la boîte.
Et justement, ça c'est très important parce que ça se lie à tout ce qui est culture d'entreprise et vision qu'on essaye d'installer dans les entreprises. Et par exemple, il y a une citation assez fameuse de David Ogilvy qui était un grand communicant qui disait « Il faut toujours recruter des gens plus grands que soi pour les faire grandir et enrichir l'entreprise ». Donc la notion de culture d'entreprise a aussi un lien avec la vision du management et derrière les valeurs, la gentillesse qui peuvent être liées.
Emmanuel Jafflin, je voudrais qu'on revienne sur l'histoire de la gentillesse, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que le mot gentil a-t-il à ce point aujourd'hui une mauvaise réputation?
C'est toute une histoire, elle est longue. Alors, je vais vous faire la version courte.
Faites-nous
la version longue.
Voilà, ouais. Le prof concis.
Gentilis, en romain, ça veut dire noble. D'ailleurs, on le retrouve dans gentilhomme. Et puis, le mot va se dévaluer petit à petit. Même dans le monde romain, on va désigner par gentilis aussi bien le noble que l'esclave. Donc, le noble et ignoble. Et puis, les juifs traduisent le terme goy, qui désigne le non-juif, comme ils sont un peu latinistes, par le terme gentilis. Et les chrétiens vont se l'approprier pour désigner ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc le gentil, c'est celui qui connaît pas Dieu, qui connaît d'autres dieux, qu'il faut ramener à soi. D'ailleurs, saint Paul, c'est l'apôtre des gentils, il n'est pas méchant, saint Paul. Mais c'est pas un gentil, c'est celui qui va convertir les gentils à la foi chrétienne. Saint Thomas, il écrit une somme contre les gentils. Et Benoît XVI, il avait fait un parvis des gentils, ça m'avait énervé parce que j'avais déjà écrit 2 livres sur le sujet, mais il avait persisté.
Et vous n'avez même pas passé un coup de fil, rien?
Non, rien, mais le Vatican baisse. Ceci dit, là, il est remonté avec le nouveau. Mais donc, l'idée de gentillesse, elle a toute cette histoire ambiguë qui fait que gentil se dit en bonne part, c'est le noble. D'abord, le noble de naissance et aujourd'hui, ce que j'appelle le noble d'essence, celui qui a une aisance morale, celui qui a compris qu'il ne fallait pas marcher sur les autres pour être bien.
Mais alors, justement, aujourd'hui, ça veut dire quoi, gentil, en réalité? Dans le fond.
On voit que vous avez vu, le Père Noël est une ordure. Hein, Thierry l'ermite dit, je veux pas dire, mais Thérèse, elle est bien gentille. Ça, c'est la gentillesse en mauvaise part. Mais le gentil, c'est celui qui a compris que on est fort quand on donne, pas quand on prend. Celui qui prend, le prédateur, le cupide, le cynique, c'est celui qui ne sait pas qui il est, qui cherche en s'armant à l'extérieur et en prenant à l'extérieur à se remplir parce qu'il est vide. Le gentil, celui qui est plein et qui justement peut donner. Donc c'est une vraie force. La gentillesse, mais c'est une petite force. C'est une force discrète.
C'est rhizomatique, écrivez-vous.
Oh, elle m'a lu, j'en reviens pas. Elle est gentille, c'est une gentille dame, disais-je au début de l'émission.
Pourquoi c'est rhizomatique?
Il y a deux types de plantes.
Qu'est-ce qu'on entend par rhizomatique? Voilà, c'est ça.
Il y a les plantes qui poussent verticalement, qui sont phalliques, diraient les freudiens, c'est-à-dire ce qu'on voit en érection. Et puis il y a des plantes qui croissent sous terre, qui sont souterraines. Et moi, je pense que la gentillesse, ça ne fait pas partie de ces grandes vertus comme la foi, l'espérance, la charité, ou comme les vertus qui sont sur les frontispices des bâtiments républicains, la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est une vertu de l'ombre. C'est une vertu qu'on pratique discrètement. Par exemple, ici, quelqu'un m'a tenu la porte, m'a servi un verre d'eau. Tout ça, c'est de la gentillesse. Et il s'est anobli par ce geste à chaque fois parce qu'il a donné une particule de lui-même. Donc voilà pourquoi elle est rhizomatique, précisément parce qu'elle est souterraine et qu'elle gagne en évidence, mais pas forcément en affichage.
Dans la vie de tous les jours, il n'y a que les ordures qui réussissent, nous écrit Nick sur Twitter. Attention, trop bon, trop con. On va revenir ensemble, si vous le voulez bien, justement sur cette idée qui revient régulièrement. Hélène Groen sur Twitter également. Pas évident, trop beau, trop con. Humour aussi du côté de Boxeur. Si t'es gentil avec moi, tu auras de l'avancement. Merci, monsieur le directeur. On se retrouve avec vous dans un instant sur l'antenne d'RTL et puis on donnera la parole à quelqu'un qu'on aime bien dans cette émission. C'est Mathieu Dardaillon. C'est un jeune qui a plein d'avenir et qui a plein de super idées. 3210 et réseaux sociaux. Peut-on réussir en étant gentil? Of course, bien sûr, sur RTL. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Vous écoutez RTL.
15h, 16h. Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Un message de Fabrice que nous avons reçu aujourd'hui sur Facebook. Nous vous posons cette question. Peut-on réussir professionnellement en étant gentil? Il faut parfois éviter celui qui veut rendre trop service au risque qu'il devienne trop envahissant. Le proverbe dit « gentil n'a qu'un œil ». Bref, être trop gentil peut être une source d'ennui et quelqu'un de trop gentil peut cacher de mauvaises intentions. Les faux gentils, on va en parler également au cours de cette émission avec vous. Emmanuel Jafflin, auteur de l'éloge de la gentillesse en entreprise. Vous êtes un convaincu des vertus de la gentillesse. Et puis Antoine Petit qui vous propose un ouvrage « Déchire en stage », le guide du stagieuse pour survivre en entreprise chez Librio. Si vous le voulez bien, messieurs, on va tout de suite parler avec Mathieu Dardaillon qui est en ligne avec nous, qui a la gentillesse de nous accorder quelques minutes de son précieux temps. Il doit être entre deux gares, Mathieu, d'ailleurs. Salut Mathieu.
Bonjour Flavie.
Merci d'être avec nous, Mathieu Dardaillon. Je vous présente donc nos invités. Alors Mathieu, on vous aime bien dans cette émission et c'est un plaisir de pouvoir parler de Ticket for Change. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Parce que je disais il y a un instant que vous étiez entre deux gares.
Oui, absolument. Là, on est en train de faire un tour de France avec des jeunes et des moins jeunes qui cherchent à lancer des projets à fort impact social avec une dimension entrepreneuriale. On les aide à avoir un déclic. Ils sont 58. Là, ils font un tour de France. On est parti de Paris mardi dernier. On est allé à Marseille. On est allé dans le Gers. Aujourd'hui, on est à Bordeaux. Mmh. On part après-demain à Lille et on finira à Paris. Le but, c'est de les aider à formaliser leurs idées. Les aider à avoir un déclic du passage à l'action et les aider dans leur premier pas. Donc on parle d'entrepreneuriat du changement, comment lancer des projets qui concilient efficacité économique, impact social, responsabilité environnementale.
Alors vous parlez d'un changement, vous parlez des pionniers du changement. Est-ce que vous pensez que la gentillesse, justement, fait partie de ces valeurs pionnières aujourd'hui?
Je ne sais pas s'il faut parler de gentillesse, mais il y a quand même des valeurs qui sont assez proches. On peut peut-être parler plutôt d'empathie. D'empathie quand on voit un problème et qu'on essaie de se l'approprier pour chercher une solution, ou d'altruisme. Donc c'est des valeurs assez proches, mais effectivement qui doivent être incarnées dans les nouveaux entrepreneurs qu'on essaie de mettre en mouvement.
Alors, Mathieu, je vous présente Emmanuel Jafflin.
Bonjour,
qui est
Mathieu.
Avec nous, qui est un ami
Bonjour.
Philosophe, et Antoine Petit. C'est vrai que Emmanuel Jafflin, vous pensez-vous que la gentillesse doit être impulsée aujourd'hui par les patrons? Les politiques ne le font plus, les patrons doivent prendre le relais.
Alors, je voudrais dire que Mathieu a un super projet, et que
génial,
c'est
hein.
la rentrée, c'est bien de parler de l'entreprise, c'est bien qu'elle soit un lieu où on s'épanouit, et c'est bien aussi de montrer que l'entreprise, c'est l'avenir et que c'est le vrai pouvoir. Donc dire aux jeunes qu'ils sont entreprenants, qu'ils vont être entrepreneurs, c'est montrer que la France, elle est en train d'évoluer. Je prends trois exemples politiques. François Hollande a dit il y a quelques jours, au mois d'août, qu'il baisserait les impôts si la croissance augmentait. On se doute que la croissance, elle n'augmente pas par décision politique. Emmanuel Macron, qui a un très joli prénom, a dit à l'université d'été que pendant trop longtemps, la gauche, elle a essayé de s'opposer aux entreprises, voire de faire de la politique sans elle. Et il dit le contraire, parce qu'il a reconnu le fait que le cœur du pouvoir, désormais, c'est l'entreprise. Et le patron du Quai d'Orsay a dit que désormais, il allait orienter la politique diplomatique. Moi, je suis un ancien diplomate, donc ça m'intéresse, du côté de la balance commerciale extérieure. Donc on voit bien que le pouvoir politique a compris que l'essence du pouvoir était économique, et c'est bien de brancher les jeunes sur cette longueur d'onde, parce que pour être épanoui aujourd'hui, il faut contribuer à la croissance.
Mais est-ce que cette jeunesse dont vous parlez, à un moment donné, est éduquée à la gentillesse?
Non, ça rime seulement pour l'instant.
Exactement.
Dans les écoles, c'est des tueurs. Moi, j'y interviens et je vois bien que je suis un peu décalé.
Alors voilà.
Mais quand j'explique aux gens que le cynique, le méchant, c'est quelqu'un qui est vide. Vous savez l'étymologie, Flavie, de méchant, c'est méchoir.
Oui.
Et méchoir, c'est choir,
c'est
mal.
Tombé.
C'est
oui.
celui qui tombe mal. Oui. Et le méchant, c'est celui qui tombe mal, mais qui s'en rend pas compte parce qu'il fait tomber les autres pour prendre, pour tirer les pieds sous le tapis à quelqu'un et prendre un poste.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Antoine Petit, de ces jeunes? On va demander après à Mathieu Dardaillon de nous donner son point de vue.
Ah bah effectivement, j'ai un petit, un assez gros différent d'opinion sur le sujet avec vous, Emmanuel.
Super,
parce que,
Mathieu, on va se battre.
Non, Antoine.
Antoine, pardon.
Mathieu, il est en ligne,
Mathieu,
il ne se bat pas avec vous, il est à distance.
En fait, je pense que les jeunes sont effectivement la solution pour changer cette crise qu'on est en train de voir, qui est macro, qui concerne la politique, l'économie, et justement la vision du nouveau capitalisme ou de cette nouvelle version à inventer par la suite. Mais là où je diffère de vous, c'est que quand on parle de gens qui ont fait des écoles, qui sont devenus des tueurs, moi j'ai une vision différente pour en avoir fait une école comme ça.
Vous avez l'air plutôt sympa, moi, je trouve.
Je suis plutôt sympa. Après,
sympa, c'est le mot grec pour éviter le mot latin gentil. Hein.
D'accord,
c'est
okay.
de l'empathie, les deux.
C'est des endroits où on forme des gens sur des compétences qui sont avant tout techniques. Et c'est vrai que, à la différence des parcours un petit peu plus humanistes ou littéraires, on ne les arme pas assez sur cette compréhension du monde, sur la manière de travailler ensemble autour de l'humain. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'entreprise, c'est une organisation centrée autour de l'humain.
On est plutôt d'accord jusque-là.
C'est en train d'émerger. Oui, mais en gros, toutes les écoles ne font pas des machines à tueurs. Tout le monde ne fait pas des machines à manager absolument sanguinaires. C'est plutôt un manque d'éducation autour des manières de manager les gens.
Alors, Mathieu, vous restez un petit peu avec nous? Vous nous accordez encore un petit instant? Comme ça, vous allez pouvoir intervenir dans un instant sur l'antenne d'RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci d'être avec nous. En termes de carrière, peut-on réussir en étant gentil? C'est la question que nous vous posons. N'hésitez pas, 3210, les réseaux sociaux. On parlera un petit peu plus tard dans cette émission avec vous, si vous essayez de nous joindre, et puis avec différents témoins qui interviendront sur cette antenne. Mais pour l'heure, nous sommes donc, vous l'avez compris aujourd'hui, avec Antoine Petit, avec Emmanuel Jafflin et avec Mathieu Dardaillon de Ticket for Change, en train de parler justement de ces jeunes. Alors, il y a un instant, sur cette antenne, Antoine Petit, vous étiez en train de nous expliquer que, de votre point de vue, hein, aujourd'hui, toutes les écoles ne sont pas des fabriques de personnages cyniques et des machines à tuer dans le travail. On va juste laisser Emmanuel Jafflin répondre et après Mathieu Dardaillon va revenir dans la conversation.
C'est gentil, Flavie. Moi, j'ai jamais dit que les écoles de commerce étaient des machines à tuer, mais ce que je vois surtout, c'est qu'il y a un changement de paradigme. Hein. C'est-à-dire que les jeunes, la Y Generation, elle va pas rentrer dans l'entreprise comme y rentraient leurs parents, avec un ordre vertical. On disait rhizomatique, c'est-à-dire tout est horizontal. Et je pense que l'entreprise doit prendre conscience, en tout cas, les entrepreneurs qui lisent mon livre l'acceptent volontiers, sauf les tueurs, c'est qu'il y a deux finalités dans l'entreprise. Il y a une finalité économique qui est de produire de la croissance, et il y a une finalité politique qui est de créer justement une atmosphère sociable. L'entreprise, c'est une matrice de sociabilité. Pourquoi? Parce que le pouvoir politique ne fonctionne plus. Il y a l'abstentionnisme, les lois qu'on pond sont symboliques, mais le vrai pouvoir, il est économique. Ce que les gens attendent, c'est un salaire et de l'argent. gens. Donc l'entrepreneur, quand il a compris ça, il a compris que l'entreprise était poreuse et qu'il faut y rentrer sans avoir mal au ventre et il faut ressortir avec le sourire aux lèvres. Et ça,
et
on va le
c'est comme ça qu'on est productif.
Mais absolument.
Et c'est forcément bon pour l'entreprise que de travailler dans ce
secteur. Je vous parlerai plus loin d'un sondage qui a eu lieu il y a quelques années aux États-Unis, qui a été fait dans une entreprise et qui a montré la formule qui résumait l'étude sur 10 ans sur 20 000 personnes, c'était « Do nice guy finish last ». Est-ce que le gentil garçon, c'est celui qui finit le dernier? Et la réponse des Américains, c'était oui. Et je la conteste, parce que celui qui gagne 7 000 $ de plus par an parce qu'il s'est montré comme un tueur, parce qu'il a fait le ménage autour de lui, parce qu'il a chopé le bon poste, il va coûter cher à l'entreprise parce qu'il démobilise les collègues. Parce que lui-même va dépenser de l'argent, il va divorcer, il va payer des contraventions. On n'est pas méchant spécialisé dans l'entreprise, on est méchant partout.
Mathieu Dardaillon.
Bon bah, moi, pour réagir, je pense que ce qu'il faut se poser, c'est la question, c'est quoi réussir au fond? Je crois qu'on est en train de changer de monde aussi par rapport à ça. L'ancien modèle où réussir, c'était de gagner le plus d'argent le plus rapidement possible, à tout prix, parfois contre les autres. Je crois que on a atteint la fin de ce monde-là. On est en train de changer de paradigme, en tout cas, j'espère. Je crois que on peut réussir autrement. Moi, je crois dans un nouveau modèle où, en fait, on peut être utile et c'est parce qu'on est utile qu'on réussit. Et du coup, je préfère avoir une vie riche plutôt qu'être riche. Du coup, je crois aux valeurs de la coopération plutôt que la compétition. Et je crois que l'argent est un très bon moyen, mais pas une finalité. Du coup, avec de l'argent, quand on entreprend, on peut créer des projets qui ont une utilité sociale, qui luttent contre la précarité, la pauvreté, qui insèrent des gens. On peut lutter contre le réchauffement climatique, qui ont des problèmes urgents et importants qui concernent tout le monde. On peut lutter contre le chômage, mais il y a une autre définition de la réussite qui est, beaucoup plus pluridimensionnelle, qui prend en compte les différents aspects de la vie. Et je crois qu'il n'y a pas qu'une génération Y, mais il y a plusieurs générations qui, en ce moment, se posent la question du pourquoi, la question de se sentir utile, d'avoir un impact positif dans ce qu'on fait, de mettre ses talents au service de quelque chose qui a du sens pour chacun de nous.
Emmanuel Jafflin, quand on écoute Mathieu Dardaillon, moi je trouve que c'est, pardon à Mathieu, vous le savez, mais Mathieu c'est un mec bien quoi, c'est un jeune super bien, Saint Mathieu, exactement. Ouais, enfin faut pas pousser non plus Mathieu, mais non mais c'est un mec bien.
Mais ce que j'aime,
il a 25 ans, il a plein d'idées et quand on écoute son discours, je trouve toutes ses dents, j'ai pas vérifié, mais en tout cas c'est vrai que on sent que si l'avenir est entre les mains de gens comme Mathieu, on va dans le sens de vos ouvrages et de vos réflexions.
Il dit tout, que la finalité de l'entreprise c'est politique. Quand le patron de l'ex-patron de Google, Bill Gates, fait deux fondations avec Warren Buffett pour donner, c'est bien l'idée que l'argent c'est un moyen, c'est pas une fin, et que ceux qui se sont trompés en cherchant des taux de croissance à 15% au lieu de 3 se sont trompés de réelle finalité de l'entreprise. Elle a cette double finalité, il faut gagner de l'argent mais il faut créer de la sociabilité, et c'est ce que dit Mathieu.
Mathieu Dardaillon, vous me disiez hors antenne.
Il y a deux dards dans le nom, c'est plutôt justement vertical que rhizomatique.
Vous êtes un peu vertical Mathieu, hein?
Ouais, je suis très grand.
C'est vrai, en plus, on vous a vu, vous êtes très vertical et très grand. Merci Mathieu. Alors, juste un dernier mot sur Ticket for Change. De toute façon, on se reverra dans l'année. C'est là, vous êtes actuellement sur la route. Ça se termine le 6 septembre et tout se passe bien pour l'instant pour ceux qui sont dans le train.
Tout se passe très très bien. Pour les personnes qui sont intéressées, elles peuvent suivre en direct puisqu'il y a une équipe qui raconte l'histoire de ces jeunes qui s'engagent pour entreprendre différemment dans notre pays. Vous pouvez suivre sur le site live.ticketforchange.org. On raconte tout. Il y a des vidéos, des articles, des photos, les meilleurs tweets, etc. C'est possible de suivre à distance et d'y participer.
Eh bien, on va justement mettre l'adresse sur notre page Facebook de façon à ce que tout le monde puisse la trouver facilement. Emmanuel Jafflin, pour conclure.
Mathieu, absolument. Il est grand parce qu'il s'abaisse. Elle est là, la gentillesse, la noblesse. C'est comme la chevalerie. On met le genou à terre, le plat de l'épée sur l'épaule et on est anobli. Il s'anoblit parce qu'il va vers les autres et qu'il les aide à monter.
Waouh, Mathieu, c'est beau, non?
C'est pas mal.
C'est bon.
C'est pas mal. Allez, on vous embrasse. Ne mettez pas totalement le genou à terre. Et puis surtout, plein de bonnes choses pour Ticket for Change. Et à très bientôt, Mathieu Dardaillon.
Merci,
on vous embrasse.
Beaucoup, Flavie. À bientôt.
Salut, au revoir.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Antoine Petit, bon, vous avez déchiré en stage, vous, visiblement, puisque aujourd'hui vous êtes directeur de clientèle dans une agence de publicité internationale. Vous avez écrit cet ouvrage, Le guide du stagios pour survivre en entreprise. Donc tout à l'heure, vous nous disiez qu'il fallait être armé pour entrer en entreprise. On parle de survie en entreprise. Bon, on est heureux de vous retrouver en un seul morceau. Visiblement, tout s'est plutôt bien passé. Tout s'est plutôt bien passé pour vous. Alors, c'est quoi la vie d'un stagiaire, selon vous, aujourd'hui et pourquoi cet ouvrage?
En fait, il y a une sorte de triple vie du stagiaire. stagiaire, il y a la vie du stagiaire en tant que statut, qui est un statut compliqué dans le monde dans lequel on vit, avec un contexte économique qui précarise une nouvelle génération, avec beaucoup de contrats courts ou écourtés. Ensuite, il y a une deuxième vie qui est une vie au sein d'un organisme vivant et compliqué dont on n'a pas les codes et qui peut parfois s'avérer hostile, c'est vrai, mais il peut s'avérer aussi formidable et magnifique et un formidable terreau d'épanouissement. Et puis, il y a une troisième vie qui est une vie aussi personnelle, c'est comment on vit son stage, comment on se transforme aussi d'un jeune homme ou d'une jeune fille à un adulte avec des responsabilités, et il faut un peu apprendre à naviguer entre ces trois mondes, mais c'est en tout cas très formateur et enrichissant quand on arrive à bien survivre à ces trois transformations de chrysalide.
Emmanuel Jafflin, est-ce que vous avez l'impression que le stage aujourd'hui a les mêmes vertus qu'à notre époque, pardon. Mais moi, quand je vois les petits stagiaires aujourd'hui à RTL, et d'ailleurs, on va donner dans un instant la parole à Clément, qui vient d'intégrer notre équipe pour quelques mois, j'ai le sentiment qu'on attend beaucoup plus du stage aujourd'hui qu'à une époque où nous, on y allait un petit peu en découverte. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Ah ben, je vois.
Parce qu'on est dans un monde où on cherche tellement.
Je vais vous défriser avec ce que je vais dire, mais moi, je suis pour le travail des enfants. Donc, le stage, ça confine l'entreprise dans l'état de forteresse dans laquelle il faut pénétrer petit à petit, après la puberté, mais pas longtemps, et sous la traitance, la maltraitance, sous la surveillance, sous la bienveillance de ceux qui vous encadrent. Honnêtement, je suis pas un convaincu du stage. Par contre, je suis convaincu que les enfants devraient avoir un rapport à l'économie très jeune, beaucoup plus tôt,
travailler,
tout petit,
ouais.
Et que cette histoire du stage, c'est une concession qu'on leur fait, comme de toute manière on fait plus d'enfants,
pourquoi
c'est une
vous
concession,
parlez de concession
qui va s'arrêter. Parce que je pense que le stagiaire, c'est celui qui doit mettre un premier pied, puis un deuxième pied. Enfin, moi, je connais des stagiaires, ils enchaînent les stages sans jamais trouver de boulot.
C'est la raison pour laquelle je vous dis, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, ça, le stage, les jeunes stagiaires portent tous les espoirs dans cette période qu'ils peuvent passer au sein des entreprises?
C'est une initiation qui est rebutante, qui dure, qui est humiliante, qui tarde.
Pourquoi humiliante?
Justement, parce que l'entreprise n'est pas sortie de cette conception de forteresse.
Alors,
et il faut qu'elle se pense dans sa porosité, il faut qu'elle se pense dans sa transparence, dans le fait qu'elle a un lien avec la famille, le club de sport, le lieu de culte, l'assemblée dans laquelle on délibère, et pas dans ce côté îlot dans lequel elle s'enferme et dans laquelle on pénètre petit à petit et bout par bout.
Antoine Petit.
En tout cas, il n'y a pas que des chemins de croix au sein des parcours en entreprise. Il y a des gens qui font des rencontres formidables, qui créent des relations interpersonnelles très fortes, qui peuvent définir un parcours, une destinée, une rencontre amoureuse, même s'il faut
ça
savoir...
Ça peut tout changer.
Ça peut tout changer, il faut savoir mettre des barrières parce que trop de gentillesse ou trop de proximité peut amener à des situations un peu compliquées, comme je le dis d'ailleurs dans mon livre sur la fête d'entreprise qui n'est pas toujours évident à passer.
Concrètement, pour ceux qui nous écoutent.
On peut s'épanouir au sein d'un stage, au sein d'une entreprise. Tout dépend des styles de management qui sont promus, qui peuvent être autoritaires, dictatoriaux ou très bienveillants avec des gens qui nous portent et qui nous élèvent.
À une époque, être stagiaire, c'est aller chercher les cafés. C'est là aussi, Emmanuel Jafflin, que vous soulignez le caractère parfois humiliant de la position, enfin. Infantilisant. C'est aller chercher les cafés, faire les photocopies. C'était devenir un petit peu le larbin de...
C'est encore le cas dans certaines.
Alors justement, est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas?
Vraiment minoritaire aujourd'hui.
Moi, je l'ai vécu.
On peut plus se permettre d'avoir des quotas de gens qui ne servent à rien. Je pense que les gens, faut en tout cas leur accorder du crédit. Les gens en entreprise ne sont pas des gens sans cœur. Ils ont besoin aussi d'avoir des gens pour les aider, pour les former. Et donc, le stage photocopie machine à café...
C'est ringard maintenant.
Il existe peut-être encore, mais en tout cas, il est marginal, j'espère en tout cas.
Bon, alors là, tous les yeux se tournent vers Clément, qui est notre stagiaire. Il est où mon café, Clément? Ça va, Clément?
En plus, vous buvez du thé.
Oui, c'est vrai, je bois du thé. Ça va, Clément?
Oui, très bien.
Bon, alors, tu es rentré dans notre équipe, donc là, il y a une semaine maintenant. Tu es stagiaire, donc en entreprise. Ouais. C'est vrai qu'on avait envie d'avoir ton point de vue sur la question. Est-ce qu'un stage, c'est difficile? On ne va pas parler que de don est fait pour s'entendre, mais selon toi, est-ce qu'effectivement, tu es condamné, entre guillemets, à cumuler des stages en espérant trouver un boulot, ou est-ce que tu le prends vraiment comme à chaque fois des expériences enrichissantes qui te permettent d'avancer?
Non, moi je le prends effectivement comme des expériences très enrichissantes. Je sais qu'à la fin de ce stage-là, j'en chercherai un autre.
Oui.
Parce que voilà, mon but c'est d'accumuler les expériences dans la radio pour un jour travailler dans la radio, ni plus ni moins.
Et comment se comporte-t-on avec toi?
Très très bien, non, y a aucun problème. Non mais vraiment.
Clémence et la Clémence.
Mais vraiment, vraiment, y a absolument aucun problème. Et de manière générale, je m'estime chanceux par rapport au stage que j'ai pu faire. Là, j'en suis déjà à mon quatrième stage dans le milieu des médias et du journalisme. Mais je me suis jamais senti oppressé ou exploité ou quoi que ce soit. À chaque fois, on me confiait des missions qui étaient utiles et très très formatrices.
Donc, est-ce que tu as le sentiment justement qu'il y a de la gentillesse autour de toi, qu'il y a une forme de bienveillance qui va t'amener à pousser et puis peut-être à t'envoler?
Oui, de façon générale.
Tu sens la gentillesse,
toi?
Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on peut réussir en étant gentil? Nous, on connaît un peu tes qualités aujourd'hui dans l'équipe.
C'est un peu à double tranchant en fait. On peut être trop gentil et finir par se faire écraser, ou au contraire être gentil de façon modérée pour au final réussir à avoir sa place dans l'entreprise sans écraser les autres.
Emmanuel Jafflin.
Objection, votre honneur. Clément, on n'est jamais trop noble. Que les autres le voient pas, c'est tant pis pour eux, mais c'est eux qui perdent.
Bah oui, mais ce sont eux qui peuvent réussir aussi. On peut se retrouver exclu lorsque l'on est trop gentil, comme le dit Clément. Si je traduis un petit peu ce que
Antoine
nous explique.
Oui, mais Antoine disait tout à l'heure, ça, il y a trop de gentillesse. Moi, je connais pas de gens qui sont morts de la gentillesse. Hein. Je vois plutôt les morts collatérales de la méchanceté.
C'est vrai.
Mais de la gentillesse, non. La noblesse, c'est pas quelque chose qui affaiblit. Maintenant qu'on ait raté une occasion parce qu'on a été trop faible, c'est pas trop gentil. Hein. Je veux pas que vous confondiez les termes. Gentillet, c'est le terme péjoratif qui veut dire il est effectivement mou, on peut le mener par le bout du nez. Mais le gentil, c'est celui qui rend service quand on lui demande. Si on lui demande pas, il rend pas service. Il n'est pas dans la sollicitude, c'est-à-dire l'intrusion volontaire dans le désir de quelqu'un. Vous n'essayez pas, Clément, visiblement, d'anticiper les désirs de Flavie qui sont nombreux. Bon, bah voilà.
On se retrouve avec vous, bien sûr. Sur RTL, comment se traduit la gentillesse autour de vous dans le monde du travail, ou comment se traduit aussi cette méchanceté, comment y résistez-vous? N'hésitez pas, 3210, les réseaux sociaux. À tout de suite sur RTL. Dans un instant, on va appeler Elodie, justement.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Eh bien, nous poursuivons notre conversation de ce jour dans la joie, la bonne humeur et la réflexion. Aujourd'hui, avec nos invités, Antoine Petit, devenu grand, auteur d'un ouvrage bon pour tous les stagiaires qui nous écoutent, Je déchire en stage, le guide du stagios pour survivre en entreprise chez Librio. Et puis, quand on est encore un petit peu plus grand, on peut lire l'éloge de la gentillesse en entreprise d'Emmanuel Jafflin. C'est vrai, il n'y a pas de dessin dans votre ouvrage. Il n'y a pas de. Mais c'est quand
Il y
même.
Il y aura une version c'est BD le... si vous me le demandez.
C'est le fruit, en tout cas, d'une grande réflexion, cette fameuse gentillesse dont Elodie a voulu faire preuve. Et figurez-vous, messieurs, qu'elle regrette bien. Bonjour Elodie, bienvenue sur RTL.
Bonjour tout le monde.
Bonjour toute seule. Vous avez 22 ans, Elodie. Vous êtes originaire de Bordeaux.
Oui.
Vous étudiez aujourd'hui la radio. Tiens, donc peut-être qu'un jour, vous pourrez faire de la radio à RTL. Je vous le souhaite
en tout cas.
À Paris. Ici, on a le droit d'être gentil, mais ça n'est pas toujours le cas. Vous avez passé une année en CDD dans une boîte de communication.
Oui.
Et vous avez tout fait pour réussir, et pourtant, comment dire, vous êtes pris un petit peu les pieds dans le tapis, c'est ça?
C'est un peu ça. Alors déjà, je vais rassurer Clément, j'étais en stage dans la boîte qui m'a ensuite embauchée, donc c'est peut-être bon signe pour lui à RTL.
Bon bah Clément, hein, on ne sait jamais. Merci pour la bienveillance. Déjà un acte de bienveillance, Emmanuel Jafflin,
oui,
du côté d'Elodie.
Oui, elle est très solidaire en tout cas.
Voilà, on l'entend. Alors, Elodie.
Donc je suis rentrée dans cette boîte en CDD, donc on m'a dit tu signes un CDD pour un an et si tout se passe bien, on t'embauche en CDI. Donc bien évidemment à 21 ans, ben, si on nous promet un CDI, on fait tout pour. Donc moi j'ai intégré cette boîte de communication en tant qu'assistante de communication, donc je m'occupais de tout ce qui est relations presse, etc. Et par moment, mon patron me demandait de faire également un peu d'événementiel, c'est-à-dire de faire hôtesse sur des événements partenaires de notre agence. Donc, j'y allais bien évidemment.
Mais vous étiez rémunérée pour ce travail supplémentaire ?
Je n'étais pas rémunérée dans ces moments-là, c'était du bénévolat. Donc, je l'ai fait parce que ben, ça m'apportait quand même une expérience. Donc, j'allais pas dire non à ce genre de choses. Ça me permettait également de voir du monde. Sauf que ça devenait de plus en plus récurrent et ça en arrivait à ce qu'on me demande de faire au test toutes les semaines, le samedi soir. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ben, ma vie personnelle en a pris un coup.
Bah oui, j'imagine.
Et donc, j'ai osé dire non. Et ça m'est tombé sur le coin du nez puisque le lundi, je suis arrivée, mon patron ne me disait plus bonjour et on m'a dit à la fin du mois, c'est terminé pour toi.
Vous avez tout de suite fait le lien avec justement ce refus, ce premier refus inédit qui avait été le vôtre dans cette entreprise ?
C'était la première fois que je disais non et ça a été tout de suite, ça s'est répercuté tout de suite puisque j'avais eu aucune erreur avec aucun client, j'avais que des bons retours et j'atteignais mes objectifs de fin de mois. Donc au départ, je voyais pas du tout pourquoi on me notifiait la fin de mon contrat. Et en fait, j'ai très vite fait le lien avec le non du vendredi qui était juste avant.
Vous avez demandé confirmation, vous avez cherché à...
Alors j'ai cherché à avoir des explications. Alors au départ, donc mon patron ne voulait plus m'adresser la parole. Donc au départ, j'ai dû passer par l'assistante du patron qui m'a gentiment expliqué que je n'étais pas assez dévouée pour mon entreprise. Chose que je n'ai pas compris, sachant que pendant quasiment un an, donc tous mes samedis soirs leur ont été dédiés. J'étais pas payée, j'étais pas déclarée non plus dans ces moments-là. Donc je faisais ça uniquement pour rendre service et parce que je savais qu'au bout il y avait un CDI. Et petit à petit, l'assistante m'a dit, en fait, tu as refusé une mission et pour nous, c'est comme si tu avais abandonné ton poste.
Emmanuel Jafflin, quand on écoute Élodie, on peut comprendre qu'effectivement, à un moment donné, cette vision de la gentillesse puisse être mise en cause.
C'est Saturday Night Nightmare qu'elle nous raconte, c'est pas Fever.
Ceux qui nous écoutent, c'est le cauchemar du samedi soir.
Ouais, on a des bilingues ici à RTL, c'est pour ça, d'ailleurs, c'est une radio luxembourgeoise, on y parle toutes les langues. Mais ça me fait penser aux Intouchables en Inde. L'entreprise, il y a le salarié en CDI, qui peut être maltraité, mais qui est quand même dans une position de force. Il y a celui qui est en CDD, et puis il y a le stagiaire. Et donc, avec le stagiaire, certains sont très paternalistes, très maternalistes, très bienveillants ou gentils, mais il y en a d'autres qui en profitent justement pour tirer la corde. Tous les samedis soirs, travailler sans être payé pour se faire jeter à la fin, c'est pas de l'absence de gentillesse. C'est carrément du cynisme et de la méchanceté.
Est-ce qu'Élodie était gentille ? Pardon Élodie, je ne remets pas du tout en cause votre motivation, mais est-ce que c'est la gentillesse dont vous parlez ?
Eh bien non, parce que dans mon livre, je dis être gentil, c'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande. Mais si quelqu'un il est en position d'autorité, si on voit qu'il exploite, il faut savoir dire non et peut-être même partir plus tôt pour sauver son honneur et affirmer sa personnalité. La gentillesse, ce n'est pas du tout être gentillesse, ce n'est pas du tout la faiblesse. C'est vraiment un acte moral, un acte d'engagement qui fait que je tiens la porte, j'aide un handicapé, un aveugle à traverser. Ça, c'est de la gentillesse. Le fait de soumettre, c'est pas de la gentillesse, c'est vraiment de la faiblesse psychique.
Antoine Petit, qu'est-ce que vous pouvez dire à Élodie ?
Eh bien, qu'elle n'a pas eu de chance. Hein. C'est vrai qu'elle est tombée sur quelqu'un qui a abusé de son statut hiérarchique, qui l'a forcé à entrer dans une position même de servilité. Mmh. Et il était tout bonnement dans l'illégalité la plus totale. Je pense fort heureusement que tous les patrons ne sont pas comme ça. Mais en tout cas, elle a vécu, oui, effectivement, un gros cauchemar.
Élodie, ça a complètement changé votre vision des choses ou est-ce que vous avez décidé de poursuivre dans la voie qui était la vôtre, celle de la disponibilité et de la gentillesse ?
Alors, ça a été un électrochoc, oui, puisque donc j'étais donc dans ma ville de naissance avec ma famille et mes amis, ma vie bien implantée. Et à 21 ans, c'est vrai que on a du mal à quitter notre cocon. Mm-hmm. Sauf qu'en fait, moi, ça avait été tellement une grosse claque que du jour au lendemain, je suis partie sur Paris, j'ai passé des concours et aujourd'hui, je suis dans une formation donc qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que je faisais au départ. Mais en fait, le fait d'avoir baigné un peu dans les relations presse. Ça m'a intéressée vis-à-vis des médias, et vu que je suis une grosse consommatrice de radio, j'ai fait le rapprochement, bien. Je me suis dit pourquoi pas.
Mais Élodie, est-ce que vous avez décidé de voir les choses différemment et de faire preuve de peut-être un peu plus de... comment dire ?
De ténacité
ou de hargne, ou je ne sais pas. Est-ce que vous avez décidé de rester gentille ?
Alors oui, malgré tout, parce que c'est dans ma nature, je suis comme ça, je ne sais pas dire non à la base. J'ai appris à le dire, à poser des limites dans mes relations professionnelles. Mais par contre, c'est vrai que pour rendre service, je saurais toujours dire oui parce que je suis comme ça, j'aime rendre service aux gens
parce
et j'aime
être au
contact des gens.
Donc c'est juste Emmanuel Jafflin qui le dit, n'était pas avec les bonnes personnes.
Oui, mais en même temps, elle aurait dû le comprendre plus tôt et prendre la décision de partir plus tôt. Mais il ne faut pas faire passer pour une faiblesse qu'Élodie, elle a besoin de donner parce que justement, elle n'a pas besoin de se remplir.
C'est comme ça que vous réussirez.
Elle est là, Élodie. Sa vraie force et sa vraie noblesse. Bravo, Élodie, continuez.
Voilà, c'est comme ça que vous réussirez. Ne pensez pas que tout le monde est comme ça. Vous nous tenez au courant, surtout pour la suite. Et puis peut-être un jour dans les locaux d'RTL. On vous embrasse.
J'espère.
Salut, Élodie.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Messieurs, des messages que nous avons reçus sur Facebook. JM, je pense être gentil et j'en suis fière. Ça, c'est déjà bien. C'est cette idée de la noblesse, Emmanuel Jafflin. Ce n'est pas un handicap pour moi. Oui, quelques désillusions de temps à autre, mais rien de grave. On en parlait il y a un instant avec vous également, Antoine Petit, et puis Élodie sur cette antenne. Est-ce que finalement, être gentil dans le travail, ça n'est pas déjà digérer cette idée que l'on va avoir des désillusions, qu'on risque d'être déçu par les autres, Antoine Petit. Ça fait partie du parcours du gentil.
Oui, en tout cas, il ne faut pas s'arrêter à ça. La gentillesse, c'est un formidable fluidificateur de relations. En fait, je pense que c'est même un atout, que ce soit moral ou même simplement dans le cadre du travail. Alors après, se pose la question aussi du cynisme, d'utiliser la gentillesse comme élément fluidificateur. En tout cas, le fait de donner permet de recevoir, et j'ai vu beaucoup plus de belles choses arriver avec des modes de management bienveillants et charismatiques qu'avec des gens autoritaires qui, sous la férule certes, font performer sur un petit sprint, mais en tout cas sur le long terme ne font pas marcher la mission de l'entreprise. Donc la gentillesse est formidable.
Emmanuel Jafflin, avant de revenir sur l'idée des faux gentils, est-ce qu'effectivement la désillusion fait partie du parcours du gentil?
Oui, vous savez, moi j'ai fait...
Comme dans l'existence d'ailleurs, pardon, je vous coupe la parole, mais même en règle générale, quand on est gentil, même dans la vie sentimentale...
Enfin, dans la mort, on ne peut plus être gentil, de toute façon.
On est de toute façon beaucoup plus à même à être déçu et avoir des désillusions quand on est sympa. Non ?
Oui, et en même temps, le méchant, il a aussi des désillusions parce qu'il se fracasse, finalement. Donc, il en a aussi, il ne faut pas croire que c'est l'apanage des nobles, moraux, d'être désillusionné. Mais c'est un parcours, la vie. Alors, il y a celui qui est méchant et qui s'aperçoit qu'il récupère plus de désavantages que d'avantages. Mmh. Il se convertit à la gentillesse. Et le gentil, c'est celui qui, à chaque fois qu'il donne, découvre une respiration. Il va faire une découverte plus profonde, puisque vous cherchez la profondeur de la gentillesse. C'est que le moi n'existe pas, Flavie. Moi, je vous parle de vous à moi. Mais en réalité, on est tous des métiers à tisser. On entrelace des relations. Il y a plein de cultures qui n'ont pas le pronom personnel « je » et qui ont des vies sociables qui sont très fluides, qui sont très denses, alors qu'aujourd'hui, chacun est enfermé derrière son écran et vers lequel tout vient, d'ailleurs, puisque les systèmes informatiques vous font croire que vous êtes le centre du monde. Et le mérite de la gentillesse, c'est justement de se délester un peu de soi. Et alors, la phase suivante, c'est la sainteté. C'est quand on donne tout. Mais la gentillesse, elle nous fait... La vraie désillusion, c'est de découvrir qu'on croyait qu'on était un moi. Elle est là, la vraie désillusion, et elle est positive.
Daddy Clem, un message sur Facebook. Dans la société dans laquelle je travaille, certaines personnes sont également de faux gentils. Toujours à vouloir travailler plus vite ou faire plus que les collègues pour être bien vu. La gentillesse peut être une posture aussi, Emmanuel Jafflin.
Ça, c'est les cyniques. Honnêtement, moi je dis, le gentil et le méchant, c'est ce qu'on opposait. Il vaut mieux opposer le bon et le méchant. Le bon, celui qui fait des choses où il donne, ça se voit, et le méchant, celui qui prend. Et le cynique, c'est celui, puisque le méchant est plus à la mode, les choses sont plus frontales, ne sont moins frontales, donc ne sont plus frontales. Du coup, il se dissimule et il se déguise en quoi? En gentil. Le cynique, c'est un méchant qui se fait passer pour un gentil.
Mais ça, c'est pas facile. Il faut les repérer. On les craint.
Ah non, c'est pas facile. Je suis d'accord avec vous. Mais
est-ce que c'est une nouvelle
race? La gentillesse, c'est de l'empathie, c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est de l'intuition sensorielle. Donc, si vous êtes à l'écoute d'autrui, vous voyez bien à un moment ce qu'il pousse à donner. Si le but, c'est de prendre, il est quand même décelé assez rapidement. Je pense qu'il ne faut pas 3 mois dans une boîte pour déceler celui qui a l'impression de vous donner et qui, en réalité, vous prend du temps, de l'énergie.
C'est pas évident parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, Antoine Petit, mais certains excellent dans l'art, justement, de cette fausse gentillesse.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que le stage, d'une certaine manière, c'est un bon apprentissage pour aller se frotter à tous les morphotypes, j'ai envie de dire. Et c'est aussi pour ça, je pense, que dans les écoles de management, on est en train de faire grandir cette éducation de l'analyse des différents types de comportements, que ce soit les rebelles, les travaillomanes, les empathiques. Ça permet de comprendre, en fait, comment pensent, fonctionnent les gens pour pouvoir aussi mieux interagir avec eux, mais aussi mieux se protéger en cas de personnes un petit peu filous et mal intentionnées. Et les cyniques, c'est vrai, il y en a quelques-uns.
Est-ce que le risque, ce n'est pas d'être perverti à la méchanceté aussi, Emmanuel Jafflin, rapidement? Il y a ceux qui disent, moi, à un moment donné, j'ai pas le choix, je suis un gentil entouré de faux gentils.
Tout à l'heure qu'il
a coupé
la parole, c'est gentil, c'est méchant.
Parce que je vois le temps qui passe, pardonnez-moi.
Eh bien, ce que je voulais dire, c'est qu'autrefois, on avait des frontières nettes. Elles sont plus floues, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est bien, c'est que la méchanceté est congédiée. Donc, on est obligé de se déguiser en gentil. C'est vrai que c'est plus vache, qu'on doit être plus prudent, qu'on doit être plus affûté. Mais en même temps, la valeur, elle est là. La valeur, c'est de donner, c'est pas de prendre. Et donc, c'est vraiment un progrès, l'air de rien, cette difficulté à déceler les cyniques, c'est-à-dire ces méchants déguisés en gentil.
Donc, il faut résister à la tentation de se convertir à une forme de cynisme ou de méchanceté.
Ah, mais complètement. De toute façon, tout le monde a compris en vous écoutant aujourd'hui que c'était une faiblesse psychique, morale, et qui nous condamne.
Antoine Petit, il est d'accord ?
Je suis complètement d'accord. Pour moi, la gentillesse, c'est le meilleur des atouts pour réussir en entreprise. Il faut juste savoir la distiller comme il le faut et à qui il le faut.
Allez, on se retrouve dans un instant, on va faire la conclusion. Oui, Emmanuel Jafflin, vous allez parler, c'est pas possible. Allez, à tout de suite sur cette antenne.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Allez, Manuel Jafflin, je suis sympa, je vous laisse la parole.
Pas sympa, gentille.
Je suis gentille, je vous laisse la parole.
Je disais que la gentillesse, c'est une morale du pouvoir, c'est pas une morale du devoir. Autrefois, les morales étaient verticales, de la naissance à la mort, on savait ce qu'on devait faire. Aujourd'hui, grâce à la gentillesse, on sait ce qu'on peut faire. Je suis gentil quand je veux, quand je peux, mais pas quand je dois. Parce que si je devais être gentil, ça viendrait pas de l'empathie, justement. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que la gentillesse, c'est la morale qui fait la synthèse des vieilles civilisations de l'honneur, vous savez, le chevalier, et puis de nos sociétés du bonheur.
Très bien. Alors, c'est la rentrée aujourd'hui pour certains. C'était la rentrée il y a une semaine sur RTL. On est plein de bonnes résolutions aujourd'hui. Donc, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on aborde cette nouvelle saison de travail avec gentillesse. Donc, gentillesse ne veut pas dire faiblesse. On l'aura compris aujourd'hui. D'ailleurs, comme le dit Farmer Seb sur Twitter, gentil ne signifie pas qu'il ne faille pas s'affirmer quand il le faut. À l'instar d'Élodie qui a fini par perdre son job le jour où elle a réussi à dire non. Ce sont les patrons qui doivent donner l'impulsion aujourd'hui. La gentillesse doit venir d'en haut.
Les nouveaux gentilshommes et les managers, les nouveaux gentlemen.
Sont les managers. Antoine Petit, pour ceux qui nous écoutent en stage, deux conseils aussi. Être gentil, oui mais...
Oui mais, oui, surtout comprendre l'entreprise avant tout, essayer de bien ouvrir ses yeux et ses oreilles, rester soi-même, garder ses valeurs et surtout essayer de remplir à merveille ce parcours initiatique qui peut être semé d'embûches mais qui est avant tout fait pour s'épanouir aussi.
Et puis on fera aussi la conclusion avec Médéric qui nous a laissé un message sur Facebook. Et puis c'est génial d'être gentil, essayez tous pour voir, c'est vrai, c'est contagieux et ça fonctionne en plus et on arrive, c'est rhizomatique comme vous l'écrivez.
Moi je voulais dire ça mais génial,
et
c'est
on
pas
arrive
mal.
À contaminer tout le monde. Merci à vous deux d'avoir été nos invités. Manuel Jafflin, donc je rappelle l'éloge de la gentillesse en entreprise chez First. Et Antoine Petit, à la prochaine. Je déchire en stage. Bientôt, ce sera je déchire en...
On verra, ce sera
on verra.
Surprise,
très bien, vous nous tiendrez au courant. Ce sera chez Librio. En tout cas, merci à vous deux d'être venus dans On est fait pour s'entendre. Et puis nous, demain, on va changer de sujet. Écoutez bien. À la faveur d'un regard, d'un parfum, d'une voix, et paf, en plein dans le mille, en plein dans le cœur, au creux de l'estomac, selon Alphonse Allais, et soudain, les planètes s'alignent et le calme se fait. Nous parlerons du coup de foudre. Comment notre corps et notre esprit vivent-ils le coup de foudre? Le coup de foudre serait-il proche du coup de folie? 3210, les réseaux sociaux, on vous attend pour partager sur le sujet. Tout de suite, et paf, voici Laurent Ruquier, les grosses têtes, je vous embrasse, à demain.
Vous écoutez RTL.